BFM Business présente...
Tous les jours, j'entends quoi ? De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. Mais
vous avez dit qu'il y a un vrai souci, alors... il faut créer de l'emploi.
Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit.
Il suffit d'écouter BFM Business.
Voilà, magnifique.
Guillaume Paul, Good Evening Business.
Allez, il est bientôt 18h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Business dans l'actualité ce soir. Alors on ne va pas dire qu'on ne l'avait pas vu venir, c'est fait, le Sénat a voté contre, largement contre le fameux CETA, le traité de libre-échange entre l'Europe et le Canada. Pauline Tadevin va nous expliquer dans un instant ce qui peut se passer désormais. Sinon on va reparler de nos déficits publics ce soir, vous avez peut-être entendu Thomas Cazenave ce matin qui disait qu'on serait finalement sur 2023 au-dessus des... 5% du produit intérieur brut. Le rapporteur du budget au Sénat affirme ce soir qu'on sera à 5,6%. C'est précisément ce qu'on pouvait lire dans la presse d'ailleurs ce matin. On en parlera avec nos experts qui arrivent à 18h30. On parlera aussi avec eux d'Emmanuel Macron qui a fait la promo du nucléaire français aujourd'hui à Bruxelles. Et puis alors, comme quoi tout arrive, l'administration américaine qui a décidé comme ça de traîner Apple en justice tout simplement. Voilà le programme. Encore un mot pour vous dire que c'est Éric Lombard, le patron de la Caisse des dépôts et consignations, qui sera l'invité d'Eddy Chevrillon dans 10 minutes sur BFM Business. Voilà le programme non exhaustif. On est ensemble jusqu'à 20h. Très bonne soirée.
Good evening business, le journal.
Donc oui, on s'y attendait. Bonsoir, bonsoir Pauline.
Bonsoir.
Le Sénat a voté tout à l'heure contre le fameux CETA, accord de libre-échange Europe-Canada. Non très net, 221 voix contre, 44 pour. Concrètement, qu'est-ce qui se passe maintenant, Pauline ?
Bon, alors ce texte rejeté par le Sénat devrait retourner sur les bancs de l'Assemblée nationale d'ici quelques semaines. Les communistes ont d'ailleurs annoncé qu'ils voulaient inscrire le texte au programme le 30 mai prochain. En 2019, on se rappelle, les députés avaient voté juste pour son application. Depuis, les équilibres politiques ont changé, y compris à l'Assemblée nationale. Il y a le risque que cette fois, ce texte ne passe pas non plus à l'Assemblée, ce qui serait un coup de tonnerre politique pour le gouvernement à quelques jours des élections européennes. Alors derrière, l'exécutif a deux options. Soit il décide de notifier ce rejet de son Parlement à la Commission européenne, ce qui remettrait en cause l'application du traité à l'échelle de toute l'Europe. Soit le gouvernement français décide de faire comme Chypre, qui n'a pas notifié le rejet de son Parlement quand le texte a été rejeté en 2020. Depuis, l'accord continue de s'appliquer, partiellement par défaut, donc depuis plusieurs années. Mais là, le gouvernement prendrait le risque que l'opposition crie au déni de démocratie. Interrogé à ce sujet à la sortie du vote, le ministre délégué en charge du commerce extérieur, Franck Riester, n'a pas dit si le gouvernement comptait notifier ou pas à la Commission européenne le rejet de son Parlement. Il a expliqué qu'il comptait faire un gros travail de pédagogie d'ici le retour du texte à l'Assemblée pour qu'il soit finalement adopté.
Ça sera donc avant les élections européennes, a priori, que ce texte...
Une semaine avant. Si c'est le 30 mai, c'est une semaine avant les élections européennes.
Oui, il avait été adopté en 2019, mais aucun gouvernement n'avait pris le risque de soumettre le texte au Sénat depuis. Ben voilà ce qui s'est passé. Et voilà le résultat. Merci beaucoup, Pauline. Pauline Tadevin avec nous sur BFM Business. Pendant ce temps, Emmanuel Macron, lui, est à Bruxelles aujourd'hui pour un sommet au cours duquel on va notamment parler de l'Ukraine. Comment continuer à aider l'Ukraine financièrement, mais aussi comment l'Europe peut renforcer ses moyens de défense. La France, notamment, devrait plaider une nouvelle fois pour le lancement d'un grand emprunt européen, un petit peu à l'image de ce qui s'était fait pendant le Covid, mais on sait que c'est une idée qui ne séduit pas les Allemands, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis alors, puisqu'on parle défense et armée, on voulait vous dire un mot de l'armée française. Vous savez qu'elle a alors déjà beaucoup de mal à recruter, mais elle a aussi apparemment de plus en plus de mal à retenir ses effectifs. Le ministère vient donc de lancer un nouveau plan d'action pour retenir à tout prix ses talents. Reportage sur place de Léa Rojo.
L'an dernier, l'armée manquait de 3000 personnels civils et militaires. Un grand nombre a décidé de quitter l'institution pour gagner plus ou avoir une vie personnelle moins sujette aux contraintes. Pour Thibaut de Vensailles, directeur des ressources humaines du ministère des Armées, ce plan d'action est primordial pour réduire les départs.
Et un programme qui s'adresse d'abord aux questions de fidélisation. En réduisant les départs, on aura une meilleure sélectivité au recrutement. C'est un ensemble de mesures qui doivent permettre de garder plus longtemps les militaires au sein de nos armées.
Pour mieux accompagner les 15 000 militaires qui changent chaque année d'affectation, l'armée agit sur plusieurs points, la mise en place d'une aide au logement ou encore des dispositifs pour faciliter l'accès aux soins et trouver un médecin traitant par exemple.
Alors l'objectif il est assez simple, c'est d'ici 2030 de gagner un an d'ancienneté moyenne de service des militaires qui quittent les armées.
Le sujet de la rémunération est aussi un point important. Dès cette année, l'armée envisage de combler les différences salariales entre les administrations en débloquant pour cela plusieurs millions d'euros.
Reportage au ministère des Armées de Léa Rojo pour BFM Business. 18h03, je vous le disais, ce coup de tonnerre aux États-Unis. L'administration américaine vient de décider de traîner Apple en justice pour pratiques anticoncurrentielles liées à son iPhone. Bonsoir Antoine Hollard, vous êtes à Washington. Qu'est-ce qui est reproché exactement à Apple, Antoine ?
Alors c'est l'iPhone qui est au cœur de cette plainte. Le ministre de la Justice dit que Apple a mis en place avec son téléphone star un système destiné à tuer toute forme de concurrence. Et il donne des exemples très concrets. D'abord avec les SMS. Lorsque vous envoyez une photo depuis un iPhone vers un téléphone concurrent, ça marche mal, les photos sont compressées, elles sont de mauvaise qualité, alors qu'il n'y a aucune dégradation lorsque le message est échangé entre deux iPhones. Même chose avec les Apple Watch, les montres connectées. Elles fonctionnent parfaitement avec les iPhones, mais très mal avec les téléphones Android, et tout cela, c'est volontaire selon la plainte. Ces restrictions n'auraient qu'un seul objectif, forcer les consommateurs à acheter des appareils Apple plutôt que des smartphones de marques concurrentes. Toujours selon la plainte, il y a le même genre de manœuvre sur les applications. Exemple avec le wallet, le porte-monnaie numérique d'Apple, qui est le seul à avoir accès au NFC et donc le seul qui peut faire du paiement sans contact. Conclusion du ministre de la Justice, Apple a bâti sa domination uniquement grâce à un monopole. Aux États-Unis, l'iPhone, c'est 65% de part de marché. Le groupe qui a réagi et qui dénonce un dangereux précédent qui menace son identité.
Merci beaucoup Antoine. Antoine Hollard, donc à Washington pour BFM Business. Puis il se passe beaucoup de choses dans la tech parce qu'au moment où nous nous parlons, figurez-vous que c'est Reddit, le réseau social Reddit qui vient d'entrer en bourse du côté de New York. Bonsoir Nathan Cocampo. Apparemment, c'est une IPO que tout le monde regarde très très près dans le secteur. C'est une forme de test là, ce qui se joue là.
Oui Guillaume, le contexte est assez défavorable depuis deux ans avec des entrées en bourse qui tournent au ralenti. D'ailleurs, cette introduction à New York est une première pour un réseau social depuis Pinterest en 2019. Prix d'entrée, $34 l'action, en haut de la fourchette indiquée, ce qui devrait valoriser Reddit à hauteur de $6.4 billion. Reddit, c'est 100 000 forums, 73 millions d'utilisateurs quotidiens, $804 millions de chiffre d'affaires l'année dernière, en hausse de 20%. Et pourtant, après 20 ans d'existence, Reddit n'est toujours pas rentable. Son modèle économique repose sur la pub, comme Facebook, YouTube, Instagram, mais dans des niveaux bien moindres. Résultat, Reddit a encore perdu $90 millions l'année dernière.
Et ce qui est intéressant en cette histoire, c'est qu'apparemment, vous avez des utilisateurs de Reddit qui voudraient faire capoter l'opération aujourd'hui, c'est ça ?
Oui, Reddit partait d'une bonne intention, associer ses utilisateurs à son IPO pour les remercier de leur fidélité. 8% des actions leur ont donc été réservées. Le hic, c'est que ces derniers, les Redditors, voient d'un mauvais œil cette opération. Sur les 100 000 forums du réseau social, l'un d'eux, Wall Street Bets, est scruté attentivement. En 2021, pour sauver l'entreprise GameStop en difficulté, les Redditors avaient organisé sur ce forum une guerre contre les marchés financiers, achetant massivement des actions, une frénésie boursière réussie. GameStop avait été sauvé. Aujourd'hui, nouvelle stratégie donc, ils menacent de tirer à la baisse le cours de leur réseau social dès son entrée à Wall Street dans quelques minutes, car cette IPO, ils la redoutent. Ils pointent entre autres la perte nette du groupe l'année dernière. Du côté des dirigeants, on défend un modèle économique solide porté par la publicité, donc avec de belles opportunités dans l'intelligence artificielle.
Et ben voilà, Reddit qui entre en bourse aujourd'hui sur le New York Stock Exchange. Merci beaucoup Nathan. Nathan Cocampo, on apprend à l'instant le départ du directeur général délégué de LVMH, Tony Belloni, qui était le numéro 2 du groupe directement après le PDG Bernard Arnault. Il sera remplacé dans ses fonctions par Stéphane Bianchi, qui est actuellement le patron de la division montre et joaillerie. BPI France pourrait, je cite, le cas échéant, regarder telle ou telle partie du dossier Atos. C'est ce que dit le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, Eric Lombard. À BFM Business, Eric Lombard qui sera l'invité dans un instant d'Edwige Chevrillon, interview que vous pourrez écouter en intégralité. Et puis en France toujours, ce sont nos collègues de RMC Sport qui l'avaient révélé il y a trois semaines. C'est officiel, c'est bien McDonald's qui va succéder à Uber Eats pour le naming de la Ligue 1 de football. Le deal a officialisé, est officialisé tout à l'heure. D'après nos confrères de RMC, ça devrait rapporter tout cela 30 millions d'euros par an à la Ligue Nationale de football. 18h08, on va sur les marchés.
Votre rendez-vous avec AG2R La Mondiale. Épargne, retraite, santé, prévoyance. Avec AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain.
Étienne Brack à Euronext pour BFM Business. Bonsoir Étienne, petite hausse ce soir pour le CAC 40 à la clôture.
Bonsoir. Et un nouveau record qui a été franchi ce matin pour l'indice parisien, au-delà des 8200 points, avant finalement de clôturer juste en dessous à 8179 points. C'est une hausse de 0,2% pour l'indice parisien, avec notamment aujourd'hui la Banque Nationale Suisse qui a annoncé une baisse de taux. C'était pas du tout anticipé par les économistes, donc ça c'est une bonne nouvelle pour les entreprises exportatrices suisses. Et puis à noter également la Banque d'Angleterre, eh bien, qui laisse sous-entendre qu'il sera bientôt temps de baisser les taux. Donc vous avez la Bourse de Londres qui gagne quasiment 2% ce soir à la clôture. Wall Street est également dans le vert, toujours porté par les propos de Jerome Powell hier, avec notamment les membres de la Fed qui voient 3 baisses de taux pour cette année. À noter aujourd'hui Capgemini qui perd quasiment 3% ce soir à la clôture, dans le sillage de Accenture qui perd plus de 8% à Wall Street, avec un groupe qui est très prudent pour cette année. Des grosses réductions de coûts de la part de ses clients. Donc par rapport à cela, Accenture qui conseille les entreprises, notamment dans le numérique, eh bien, revoit à la baisse ses perspectives. Ça touche Capgemini. Et puis à l'inverse, à noter la très belle hausse ce soir de Swatch à Zurich qui gagne quasiment 3%, malgré un discours très prudent sur l'Asie, puisqu'après Tots la semaine dernière et Kering hier, eh bien, vous avez donc la maison mère de Omega, mais aussi de Tissot, qui constate que depuis le début de l'année, c'est toujours compliqué en Chine. Un point bas sera peut-être trouvé en milieu d'année, mais vous savez, ce point bas, il a longtemps été cité et malheureusement, il n'est toujours pas là en Chine, mais ça n'affecte pas la valeur ce soir. Donc Swatch à Zurich qui gagne un peu plus de 2%, le tout donc dans une tendance positive en Europe, mais aussi aux États-Unis. Plus 0,2% pour l'indice parisien à 8179 points.
Merci beaucoup Étienne. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street. Pendant ce temps, on est en hausse également sur les indices américains à la mi-séance. Le Dow Jones qui progresse de 0,8%, 39 844 points. Et puis l'indice Nasdaq, pareil, plus 0,8%, 16 495 points. Tout ça à la mi-séance. 18h10, c'est donc Eric Lombard, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, qui est l'invité d'Edwige Chevrillon. C'est la grande interview dans un instant. Très bonne soirée.
BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Mon invité ce soir, c'est Eric Lombard. Il est directeur général de la Caisse des dépôts. Bonsoir Eric Lombard.
Bonsoir Edwige Chevrillon.
Merci d'être avec nous. Vous avez publié ce matin vos résultats pour l'année 2023. Il y a toujours évidemment beaucoup de chiffres, beaucoup de données quand on est la Caisse des dépôts. Il y a beaucoup de dossiers aussi sur la table où à chaque fois on dit que fait la Caisse, que va faire la Caisse ou que va faire BPI, parce qu'on va rappeler que BPI est donc dirigé par Nicolas Dufourcq aussi, et vous en êtes l'actionnaire principal. Nicolas Dufourcq a dit l'autre jour chez moi, sur le dossier Atos, qu'il allait peut-être regarder. Le gouvernement a été encore plus clair avec, devant le naufrage boursier il a dit, et financier. Il a dit il faut trouver une solution nationale. Alors, je vous pose la question avant d'aborder vos résultats. Qu'est-ce que vous allez faire pour Atos? Parce qu'il faut faire quelque chose.
Alors, la Caisse n'est pas impliquée dans ce dossier, ne le sera pas. Ce n'est pas notre mandat, c'est une entreprise industrielle, une entreprise d'électronique et de défense. Et d'ailleurs, voilà, nous ne sommes pas actionnaires. Et BPI France, le cas échéant, pourrait regarder telle ou telle partie, mais en aucun cas participer à l'ensemble. C'est une très grande entreprise, sur laquelle d'ailleurs il y a des intérêts qui se sont manifestés. Donc on va laisser déjà le dossier se dérouler.
Ouais, ça y est, une solution d'ensemble. On sait où est-ce qu'il en est là.
Oui, alors peut-être qu'une solution d'ensemble sera trouvée. Dans ces cas-là, ça sera sans nous. En revanche, si sur telle ou telle activité une solution devait être trouvée, je rappelle que BPI France, dans ces sujets, intervient toujours comme minoritaire et aux côtés d'opérateurs.
Ouais.
Donc ça ne peut pas être le cœur d'une solution, ce ne serait pas conforme à son mandat.
D'accord, mais vous avez dit quelque chose d'important, c'est-à-dire que la Caisse des dépôts, ou BPI, hein, vous n'interviendrez pas dans l'ensemble, mais sur une partie stratégique, évidemment, on pense tout de suite à évident la cybersécurité ou les calculateurs, où ce sera d'autant plus stratégique que Atos et cette partie-là intervient dans les Jeux Olympiques. Hein, donc il y a vraiment un enjeu pour la France.
Alors si cela fait du sens, il y a aussi d'autres opérateurs dans le pays qui sont dans ces activités et qui peuvent avoir un intérêt industriel. Alors est-ce qu'ils auront besoin d'un accompagnement? Ça se regarde, mais il faut les laisser traiter le dossier d'abord sur un plan industriel.
Oui, au dossier un peu chaud, un mot, c'est Worldline, où vous êtes BPI est actionnaire. Est-ce que... à votre avis, il faut changer de gouvernance? On sait que là aussi, il y a un peu le feu à la maison, même si ça s'est calmé.
Ah ben, il y a un nouveau président qui a été nommé aujourd'hui. Moi, il me semble qu'il y a eu des difficultés industrielles, comme il arrive parfois dans ces métiers qui sont très exigeants et très compétitifs. Et donc, je pense que Worldline va pouvoir maintenant traiter les sujets qui sont apparus et repartir sur un chemin plus positif.
Autre dossier chaud avant d'aborder vos résultats. Non, c'est un dossier qui, là, pour le coup, vous avez à juste un peu plus de 50%. C'est Orpea, devenu hier MEI. Est-ce que pour vous, ça y est, le dossier est bouclé, solide? Et quel est l'avenir pour Orpea et quel est votre rôle, ou du moins MEI?
Alors, on est effectivement plus concernés, parce que depuis le mois de janvier, avec nos partenaires, CNP Assurance, MAIF, MACSF, on détient 51% du capital. Donc la première phase, le sauvetage de l'entreprise, qui s'appelle maintenant EMEIS, c'est fait. Mmh. Et donc maintenant, on va continuer le redressement. En réalité, le redressement, il a été entamé il y a plus d'un an par Guillaume Pépi, par Laurent Guillot, qui s'en occupe très très activement. La première priorité pour EMEIS, c'est de s'occuper des résidents et des malades, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des cliniques psychiatriques en grand nombre. Mmh. Il y a près d'un tiers des cliniques psychiatriques privées qui sont gérées par EMEIS. Et donc, recruter plus de personnel pour que le taux d'encadrement s'améliore. Les salaires ont été augmentés et donc ce travail est en train d'être fait. Et puis le redressement financier va suivre. Mais notre première priorité, c'est de s'occuper des résidents et des patients.
Oui. Donc pour vous, pas question de réinjecter de l'argent, encore de l'argent dedans?
C'est pas nécessaire. L'EBIT, le résultat opérationnel est positif et il va se redresser. Donc on verra au fil du temps, mais aujourd'hui, le problème financier réglé, c'est vraiment le sujet opérationnel sur lequel il y a un gros travail qui est en cours.
Et qui doit être fait. Les résultats de la Caisse des dépôts, donc, légère baisse, enfin de 7% quand même, 3,9 milliards. Vous avez été impacté dans toutes vos activités par la crise du logement, et puis par les résultats de la Poste dont on parle un instant, parce que c'est vrai qu'à la Poste, la situation est un peu compliquée.
Alors, on a eu deux chocs négatifs, c'est exactement ce que vous dites, sur l'immobilier de bureau. En réalité, la baisse des prix de l'immobilier de bureau, c'est à peu près moins 35% par rapport au pic. Donc, c'est considérable. Et ça nous impacte de l'ordre de 670 millions d'euros cette année. Et nous pensons d'ailleurs que ce n'est pas complètement terminé, qu'il y aura encore des ajustements en 2024. Mais nous avons provisionné totalement tout ce qui pouvait l'être. Et puis, effectivement, ça a été une année difficile pour La Poste, dont les résultats ont été divisés par deux. D'abord du fait de l'inflation. L'inflation, quand on ne peut pas tellement bouger ses tarifs pour La Poste, c'était difficile, même si La Poste a trouvé des ressources pour compenser les effets de l'inflation. Et puis quelques difficultés sur des filiales de Géoposte qui ont été fermées ou vendues. Et puis aussi une année plus difficile pour la Banque Postale. Tout ça nous coûte de l'ordre de 360 millions d'euros. Donc on voit bien que ces deux chocs, à eux deux, font plus d'un milliard d'euros. Et le fait d'avoir maintenu nos résultats à peu près au même niveau que l'année dernière, près de 4 milliards d'euros, ça veut dire qu'on a eu 1 milliard d'éléments positifs qui ont compensé. D'abord, quelques plus-values. La vente du viaduc de Millau par la Banque des Territoires.
Icade Santé aussi.
Et puis chez Icade, Icade Santé, qui a été une très belle opération, qui a permis à Icade d'avoir des résultats très positifs l'année dernière. Et puis par ailleurs, sur le plan de nos gestions d'actifs, une très bonne gestion financière, qui fait que certaines provisions qui avaient été passées l'année dernière ont été reprises. Et puis, on a profité aussi de la hausse des taux d'intérêt, que les taux d'intérêt à long terme sont maintenant entre 2,50 et 3% sur le 10 ans, mais plus sur ce qu'on appelle le crédit. Et nous avons repositionné une partie de nos investissements sur les actifs de taux et puis aussi sur les actions qui ont une bonne performance. Et ces résultats financiers ont complété en fait ce qui a permis de compenser ce milliard d'euros de difficultés. Donc au total, une année très très solide et en réalité un résultat opérationnel qui est en hausse par rapport à celui de l'année dernière.
Est-ce que ça vous allez donner combien à l'État? Parce que vous avez vu que l'État, il faut, comme il y a un problème de finances publiques, vous allez reverser combien de votre
alors l'État
résultat
l'État
à l'État
peut être satisfait de la relation que nous avons, puisque comme vous savez, l'État n'est pas actionnaire, nous n'avons pas d'actionnaire, mais nous allons verser au titre de 2023 2,5 milliards à l'État. 2,5 milliards, ce qui est considérable. 1,5 milliard au titre de la moitié du résultat consolidé que, par tradition depuis ces dernières années, nous versons. 500 millions au titre d'un équivalent impôt sur les sociétés. Et puis 500 millions au titre des fonds d'épargne. Vous savez que nous gérons les fonds d'épargne, le livret A. Les fonds d'épargne ont fait un très bon résultat l'année dernière. grâce à une gestion financière active.
Ils vous ont tordu un peu le bras quand même ou pas? Parce que c'est vrai qu'ils ont, ils ont besoin d'argent, non?
Non, parce que c'est l'application des règles. Mmh. La moitié du résultat, ça fait 7 ans que c'est comme ça au moins.
Bien sûr.
L'équivalent impôt sur les sociétés, c'est les règles de l'impôt sur les sociétés. Et sur les fonds d'épargne, dont l'ayant droit économique et l'État, qui d'ailleurs garantit les fonds d'épargne, nous dotons pour avoir une solvabilité, et la solvabilité est très élevée, il y a 15 milliards d'euros de fonds propres, 15% de ratio de solvabilité, et donc nous versons 508 millions exactement, pour être précis, après avoir doté à des réserves pour améliorer la solvabilité des fonds d'épargne. Donc le 2,5 milliards, c'est l'application des règles, même si c'est probablement une bonne nouvelle pour l'État.
Si vous aviez une recette peut-être pour trouver des économies soumettre ça à Bruno Le Maire, à Bercy, ça serait quoi?
Alors,
en tant que patron de la Caisse?
Chacun sa responsabilité.
Oui, mais on vous appelle le bras armé de l'État. Donc
alors, ce que je peux dire pour les personnes qui nous regardent, c'est qu'en tant qu'établissement public, on est très attentif à l'efficacité de ce que nous faisons. D'ailleurs, nous avons une équipe qui est spécialisée dans la recherche d'efficacité opérationnelle, parce qu'en fait, nous gérons l'argent des Françaises et des Français, et donc à ce titre, nous devons être exemplaires, et chaque année, nous améliorons notre efficacité.
Je reviens juste un instant sur la Poste. On voit que la Poste, il y a quand même un cœur du business qui s'effondre. On le voit bien, il n'y a plus tellement de courriers, puis peut-être que les réformes qu'ils ont faites sur le timbre a rendu un peu incompréhensible le fait de poster une lettre. Est-ce que pour 2024, vous êtes quand même assez inquiet sur la situation de la Poste, voire de la Banque Postale? Ce n'est pas le même sujet, évidemment.
Je suis très confiant parce que toute la stratégie de Philippe Vall, depuis qu'il est à la tête de la Poste, consiste à compenser la baisse du courrier, qui est inéluctable, par le développement des autres activités. La baisse du courrier s'est accélérée depuis le Covid.
Oui.
Donc, les équipes en charge ont réagi très brillamment. D'ailleurs, la branche qui s'occupe du courrier est à l'équilibre en 2023. Donc ça, c'est tout à fait exceptionnel comme réaction à des difficultés, à des chocs externes. Et puis, il y a des difficultés qui sont un peu une crise de croissance du côté Géoposte, qui sont traitées. Et sur la Banque Postale, certaines banques ont eu du mal, la Banque Postale n'est pas la seule, avec l'évolution des taux d'intérêt, la remontée des taux à long terme, qui s'est traduit par un peu un retard dans les marges dégagées, notamment dans l'activité de prêts immobiliers. C'est en train d'être traité par le nouveau patron de la Banque Postale, Stéphane Dédéian, et donc au total, je suis confiant que l'année 2024 va confirmer le redressement, en fait, déjà commencé en 2023.
Et est-ce qu'il y a des effets positifs du rapprochement avec CNP?
Considérable.
Mais est-ce que vous avez pu les mesurer en espèces sonnantes et trébuchantes?
Et d'abord, les résultats du groupe La Banque Postale sont bons, grâce à l'amélioration des résultats de CNP Assurance, pour deux séries de raisons, pour être très simple. D'abord, la relation commerciale entre CNP Assurance et le réseau de La Poste s'est améliorée, au service des clients, mais aussi de façon positive pour les opérations. Et puis, grâce à l'opération de rapprochement, les activités d'assurance dommage, d'assurance de biens de la Banque Postale ont été apportées à CNP Assurance, qui grâce à ça est devenu un assureur de plein exercice, donc avec une offre complète pour les clients de la Poste, donc des améliorations qui sont en train d'être dégagées.
On va parler un instant, parce que vous financez le logement social, on parlera de la crise du logement dans un instant, parce que c'est très important, et puis vous êtes au cœur de cette de la problématique logement avec les HLM et puis le livret A qui sert justement à les financer. Sur l'attractivité, parce qu'Emmanuel Macron, là, il y a quelques jours, a dit qu'il faisait appel à vous, Eric Lombard, à la Caisse des dépôts, pour notamment financer encore plus les PME et les TPE. Quel rôle vous allez jouer? Comment ça va se traduire? Parce que vous avez déjà de nombreux outils. Est-ce qu'il faut rajouter encore un nouveau fonds, une nouvelle activité?
Alors, de façon régulière, nous engageons des fonds dans des secteurs qui sont à la fois porteurs d'avenir,
bien sûr,
c'est l'argent des Françaises et des Français, il faut qu'ils se valorisent, mais qui correspondent à des défis. L'année dernière, nous avons investi dans la technologie, un fonds qui s'appelle le CDC Tech Premium, et qui investit dans la technologie, et nous avons effectivement décidé d'investir dans une classe d'actifs un peu délaissée à tort, qui sont les petites entreprises, les entreprises de taille moyenne, cotées en bourse, avec cet engagement de 500 millions d'euros, que nous avons prévu dans notre planification. Et le président de la République, effectivement, a trouvé que c'était une bonne idée.
C'était votre idée et pas son idée, c'est ça que vous voulez dire?
Alors, rendons à César ce qui est à César. Le président a souhaité qu'on n'investissent et qu'on agisse plus fortement pour soutenir ce segment d'activité. Et donc, nous y avons participé parce qu'on pensait que c'était une bonne idée. Et donc, il était normal que ce soit lui qui présente ça à la place.
Juste sur la crise du logement, deux, trois questions peut-être. Et après, on reviendra sur le fonds, sur votre fonds, hein, la Caisse de dépôt. Est-ce qu'il faut absolument modifier cette loi SRU qui permettrait d'ouvrir, en fait, dedans les logements intermédiaires? Est-ce que pour vous, c'est une nécessité? Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un coup de gueule de nombreux élus qui disent « mais surtout, n'y touchez pas ».
Alors, je ne vais pas m'aventurer dans le sujet de la loi qui sera débattue au Parlement, qui est là pour ça. En revanche, notre première priorité, c'est le logement social, et on a prêté l'année dernière près de 10 milliards d'euros pour le logement social. Mais nous sommes aussi les promoteurs à côté et en plus du logement social, du logement intermédiaire.
Mais c'est pour ça que je vous pose la question.
Parce que le logement intermédiaire, ça a beaucoup d'avantages. C'est moins cher que le logement libre, même si c'est un petit peu plus cher que le logement social. Et il y a des règles d'attribution qui permettent d'y loger des salariés, des fonctionnaires. Et donc, ça se développe. Mais pour tout vous dire, l'année dernière, quand on a investi 9,5 milliards dans le logement social, on a investi 600 millions de prêts dans le logement intermédiaire. Mais par exemple, quand on a fait un plan de soutien au logement au travers de notre filiale CDC Habitat, on a acheté 17 000 logements à des promoteurs pour les aider. Et là, on a fait 2/3 de logement intermédiaire et 1/3 de logement social. Donc, c'est important qu'il y ait un mix entre les deux. Le dosage
appartient au pouvoir public. Mais justement, la modification de cette loi SRU permettra d'avoir ce mixte
Je parlerai plutôt d'un effet désirable de cette modification permettant à la fois de construire plus de logements sociaux et plus de logements intermédiaires. C'est ça qu'il faut viser. Ouais. Après, la façon de le faire, regarde les élus.
Juste en un mot, il y a certains, je ne dirais pas qui, mais vous le savez mieux que moi, on dit, tiens, on pourrait peut-être, puisqu'on cherche des économies à faire, il faudrait supprimer les APL, les aides au logement. Ça serait une grave erreur.
Oui, ce n'est pas du tout une idée qui est en circulation, en réalité. Ouais. Hein, ce n'est pas du tout considéré.
On a touché le fond du trou. Du grand trou pour le logement. Le bureau, vous avez déjà expliqué, vous pensez que ça va aller quand même un petit peu mieux, enfin que le plus gros était derrière vous.
Sur le logement, on n'est sans doute pas loin de la fin de la glissade, mais ça ne veut pas dire qu'on y est tout à fait. Mm-hmm. On va rester très engagé cette année. Lors du congrès HLM de Nantes, en septembre, on a annoncé beaucoup de mesures de soutien, le plan d'achat de 17 000 logements, 8 milliards de nouveaux prêts pour le logement social, 5 milliards pour le logement intermédiaire. On va continuer cette année à soutenir la construction, la rénovation énergétique également. Notre filiale CDC Habitat va continuer à construire, probablement plus de 20 000 logements cette année. Et il faut que l'ensemble des acteurs se mobilisent. En fait, la solution à la crise, en tout cas pour le logement social et le logement intermédiaire, demande la mobilisation de tous les acteurs. Et je profite que vous me donniez la parole pour faire aussi un appel aux élus, pour que les élus se mobilisent pour aider à trouver des terrains, trouver du foncier, délivrer des permis de construire, pour que le rythme de construction s'accélère. L'année dernière, on a financé la construction de 85 000 logements sociaux. C'est insuffisant. Il faut qu'on fasse plus cette année.
Une question qui n'a rien à voir, mais qui va solliciter encore une fois la Caisse des dépôts. Évidemment, la dernière fois, lorsque vous avez interviewé, vous en aviez parlé sur le financement du nucléaire. Oui. On voit que sur l'addition, la facture sur les EPR explose. Vous m'aviez parlé de 15 milliards, mais c'était il y a quelques mois. Donc là, on a vu qu'on a revu à la hausse le coût de la facture, 60 milliards. Qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez financer?
On n'a aucun problème à la fois pour financer le logement social et des nouveaux emplois. L'année dernière, la collecte nette sur les fonds d'épargne, c'était 36 milliards d'euros. Et sur les deux premiers mois de l'année, c'est 10 milliards d'euros.
Ouais.
Donc s'il faut passer de 15 milliards pour financer le nucléaire à 30 milliards, il y a aujourd'hui 200 milliards de liquidités, alors qu'ils sont investis bien sûr dans l'économie française, mais que nous pouvons engager vers des grands programmes d'infrastructures. Et donc, dans le débat, le dialogue avec EDF, en tout premier lieu avec les pouvoirs publics, effectivement, j'ai confirmé notre proposition de participer au financement du programme nucléaire français.
Et de quelle manière
Alors, les prêts des fonds d'épargne sont un outil merveilleux parce que c'est très souple. On peut aller jusqu'à 80 ans. Aujourd'hui, on fait des prêts à 80 ans et pour le nucléaire, c'est probablement la durée qui s'impose. C'est indexé sur l'inflation et sur les taux courts, donc c'est variable et ça suit le rythme de l'économie. Et d'ailleurs, je rappelle que le maintien par le ministre des Finances à 3% du taux du livret A pour 18 mois est une des raisons du soutien du logement social. Oui. Quand cette mesure a été annoncée, la demande de prêts a explosé et c'est pour ça qu'on a fait une très belle année de prêts en 2023 et qu'on va continuer en 2024. Et donc, c'est aussi sécurisant pour un programme comme le programme nucléaire.
Mais vous pensez que les épargnants, toute dernière question, vont accepter de financer le nucléaire, l'habitat social? Oui, le nucléaire, c'est peut-être un autre débat.
Alors, Quand j'ai été auditionné par le Parlement pour ma reconduction, j'ai fait cette proposition. Donc, en toute transparence, le Parlement est informé. Et grâce à vous, ce débat a lieu devant les Français. Ça fait quelque temps que ce débat est sur les ondes et dans le débat public.
Sur la table.
Encore une fois, le débat sur le nucléaire va continuer à se dérouler. Pour le moment, je n'ai pas entendu de réaction.
D'opposition manifeste.
Certains sont contre, et je le comprends, et c'est leur droit le plus légitime, mais ça me paraît un courant assez minoritaire pour le moment.
Merci beaucoup, Éric Lombard, directeur général de la Caisse des dépôts, donc d'être venu ici commenter vos résultats, et puis tous ces dossiers d'actualité où, évidemment, on voit la main de la Caisse des dépôts. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
Allez, 18h36, les experts sont là. Première partie jusqu'à 19h pour décrypter ensemble toute l'actualité avec Audrey Tcherkov qui nous en a. Bonsoir Audrey.
Bonsoir Guillaume et bonsoir à tous. Nous sommes avec Mathieu Pechberti, Samuel Botton, associé fondateur de l'agence Step Conseil. Bonsoir à tous les deux. Alors évidemment, on va parler d'Atos. BPI France, filiale de la Caisse des dépôts et consignations, pourrait, je cite, rentrer au capital, mais seulement en partenaire minoritaire. En tout cas, c'est ce que dit le directeur général de la CDC, Éric Lombard, qui était ce soir au micro d'Edwige Chevrillon pour la grande interview. On l'écoute tout de suite.
BPI France, le cas échéant, pourrait regarder telle ou telle partie, mais en aucun cas participer à l'ensemble. C'est une très grande entreprise sur laquelle, d'ailleurs, il y a des intérêts qui se sont manifestés. Donc, on va laisser déjà le dossier se dérouler.
Ouais, ça y est, une solution d'ensemble. On sait où est-ce qu'il en est, là.
Oui, alors peut-être qu'une solution d'ensemble sera trouvée. Dans ces cas-là, ça sera sans nous. En revanche, si sur telle ou telle activité, une solution devait être trouvée, je rappelle que BPI France, dans ces sujets, intervient toujours comme minoritaire. Et aux côtés d'opérateurs.
Ouais.
Donc, ça ne peut pas être le cœur d'une solution. Ce ne serait pas conforme à son mandat.
Bon, alors si on voit le verre à moitié plein, la BPI est prête à y aller, mais dans certaines conditions.
Oui, ben là, on a l'expression assez claire, qu'on va décrypter quand même un peu, de la fameuse solution nationale prônée par le ministère de l'économie il y a 36 heures maintenant, hein, quand il disait qu'il surveillait Atos, que c'était un dossier important, qu'il avait des activités de souveraineté, et donc il fallait trouver une solution nationale. Donc, pas de nationalisation, mais effectivement, une solution avec des actionnaires publics ou parapublics. Bon, tout le monde avait pensé, évidemment, à BPI France.
Ouais.
Et là, le directeur général de la Caisse des dépôts, hein, qui est l'actionnaire, en fait, de BPI France, confirme que BPI, de toute façon, à un moment où le ministère dit on va regarder, bon, bah, va falloir regarder. Bon, et le pas de recul qu'il fait quand même, c'est de dire si on y va, et encore une fois, ça sera uniquement sur les activités stratégiques, donc les fameuses activités de cybersécurité et les supercalculateurs, pas tout Atos, hein, oui. C'est très très clair. Et quand bien même BPI irait, ça sera en tant qu'actionnaire minoritaire. Donc vous voyez que. Ils y vont parce que le gouvernement les y pousse un peu, mais ils y vont pas trop vite quand même. Hein.
Oui, mais ça laisse de la place pour d'autres actionnaires. Donc ça pose la question, qui d'autre ?
Et il dit clairement aux côtés d'un industriel. Voilà. Donc en gros, les industriels qui sont intéressés par ces activités de cybersécurité, c'est toujours les mêmes depuis deux ans. C'était Airbus et Dassault. Airbus vient de jeter l'éponge. Ils disent qu'ils n'y retourneront pas. Bon, on verra. Mais on pense à l'impuissance.
Ah bon?
À des moments où vous venez de rompre les négociations, vous n'allez pas dire on va revenir demain. Bon,
Airbus a dit niette, Thales a dit niette. C'est empressé l'autre
oui,
soir.
Oui, non, mais Thales. Alors, donc, l'autre grand acteur, c'est le groupe Dassault. Mais le groupe Dassault, il y a plusieurs entités. Il y a Thales. Et Thales a toujours dit qu'il n'était pas intéressé par toute l'activité cybersécurité et supercalculateur. Parce que ce sont deux activités qui sont logées dans la même branche. C'est compliqué, hein, là on rentre dans le détail. Mais en fait, ils ont toujours été intéressés par la cybersécurité. Ce qui pose problème, et ce qui a posé problème à Airbus, et ce qui pose aussi problème à Thales en réalité, ce sont les supercalculateurs qui sont chez Atos. Il y a pas mal de contrats, notamment avec des entités publiques, hein, comme le commissariat à l'énergie atomique. C'est que cette activité, ces supercalculateurs ne gagnent pas d'argent. Voilà. Et Airbus a regardé pendant plusieurs semaines, et il nous dit, on sait pas comment on rentabilise ces trucs. Donc ça pose un problème. Et Thales, c'est la même chose. Donc on peut imaginer, c'est ce qu'on entend, hein, on n'y est pas, il n'y a pas de négo.
Voilà, mais... peut-on imaginer que le gouvernement mette le couteau sous la gorge d'un de ces industriels-là en disant allez-y,
c'est pas
sinon,
le couteau,
derrière,
non,
on
c'est pas le couteau sous la gorge. Mais ce qu'on entend dire, c'est que si le gouvernement, enfin, si Atos, avec le gouvernement à côté, trouve un accord avec le groupe Dassault pour que la cybersécurité aille peut-être chez Thales et que pour laisser supercalculateurs aille peut-être chez Dassault Aviation, qui est l'actionnaire de Thales.
Ça va forcément se terminer comme ça, Mathieu. Enfin,
vous, écoutez, moi j'en sais rien.
Avant qu'on aille chercher Crétin, Steve.
Je n'en sais rien, mais aujourd'hui sur la table, c'est le seul scénario, on va dire, plausible. Le groupe Dassault, bien qu'étant un groupe familial et donc totalement privé, et un groupe qui dépend énormément de l'État du fait de la commande publique pour les avions, les systèmes de sécurité pour le ministère des Armées. Bref, enfin, voilà, et ça fait 50 ans que ça dure. Donc, oui, on peut imaginer que le gouvernement, on va dire ça gentiment, encourage le groupe Dassault à y aller. Alors que Dassault, le patron du groupe, hein, Charles Edelstein, avait dit il y a quelques mois à Bruno Le Maire, hors de question, nous on ne va pas sur Atos. Voilà, après c'est des jeux de c'est des jeux de négo entre Dassault.
Non, mais puisque Guillaume parle de Daniel Kretinsky, parlons-en.
Non, pas sur ses activités, c'est sûr. Non, mais oubliez tout de suite.
D'accord. Donc vous dites pas qu'il
c'est
est
pas
en train
moi
de
qui
se
dit.
Frotter
enfin,
les mains,
gouvernement
en
le dit,
espérant
enfin,
justement peut-être finalement récupérer l'ensemble pour un
sur le reste. Encore une fois, sur ses activités stratégiques de cybersécurité et les supercalculateurs, il y aura pas de Daniel Kretinsky. Enfin, okay. c'est plié. Daniel Kretinsky peut très bien racheter le reste, c'est-à-dire les activités d'infogérance qu'il essaie de racheter et le digital. Et en fait, il dit qu'il en veut plus, mais il en veut bien un peu quand même. Bon, y a une partie très de restructuration financière qui va amener, à un moment donné, forcément, en tout cas sûrement, à l'ouverture d'une procédure de conciliation du côté d'Atos, sûrement, enfin en tout cas à mon avis, dans les jours qui viennent. Et puis en parallèle, les négos pour ces activités dites de souveraineté nationale.
Pardon, mais vous n'avez pas du tout mentionné OnePoint.
Non. Mais
alors, ils sont toujours
raison.
Dans la course.
Oui, OnePoint est toujours dans la course. C'est le premier actionnaire d'Atos. Et lui aussi, comme Daniel Kretinsky, finalement, on s'intéresse à tout le reste d'Atos, tout ce qui n'est pas cybersécurité.
Alors avec un siège maintenant d'ailleurs au conseil d'administration.
Ils en ont deux. Et effectivement, le patron de OnePoint, David Layani, travaille sur une offre de reprise avec une partie des créanciers qui sont des fonds d'investissement américains notamment pour essayer de renflouer Atos.
Peut-être une partie de la solution se trouve là.
Sûrement, et une autre partie de la solution se trouve aussi peut-être du côté de Daniel Kretinsky. Au final, on retombe un peu toujours sur les mêmes acteurs.
Eh oui.
La danse se fait dans le sens inverse, mais on retombe un peu sur les mêmes pieds. Ouais.
Le feuilleton continue. Merci beaucoup Mathieu.
Merci Guillaume.
Mathieu Pertu qui est venu nous voir ce soir pour le feuilleton du jour, l'épisode du jour du feuilleton Atos, évidemment, sur BFM Business. Samuel Botton est toujours avec nous.
Toujours.
Salut, rebonsoir. Samuel, expert en communication. Puis c'est Pascal Delima qui nous rejoint, chef économiste.
Bonsoir.
CGI Business Consulting, pour parler de l'autre gros sujet du jour qui nous emmène au Sénat, évidemment.
Absolument. Le Sénat qui se penche sur le fameux CETA, fameux traité donc, de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, qui a été rejeté à cause d'une alliance assez inédite, il faut dire, entre la droite républicaine et les communistes.
Alors, rendez-vous compte, le texte avait été passé à l'Assemblée nationale en 2019, mais depuis, aucun gouvernement n'avait pris le risque de le soumettre au vote du Sénat. Ben, on comprend pourquoi. Écoutez, ce soir, la satisfaction de l'économiste de gauche, Maxime Kong. C'est le collectif Stop CETA, tout simplement. Écoutez.
C'est la légitimation de tout ce qu'on a pu exprimer depuis des années pour expliquer que le CETA et les autres accords de libre-échange sont des accords qui sont néfastes pour bien des secteurs agricoles, des secteurs industriels, des secteurs des services. En fait, toutes celles et ceux qui ne peuvent pas s'insérer dans cette mondialisation parce qu'ils ne sont pas suffisamment compétitifs. Et on a besoin de ces activités sur les territoires, on a besoin de ces emplois, de ces entreprises qui ne soient pas ratiboisées par cette mondialisation.
Oui, alors ratiboisé par cette mondialisation, ceci dit, il faut dire que cet accord, en tout cas uniquement d'un point de vue commercial, fonctionne. Quand on regarde les chiffres, l'excédent commercial agricole de la France, c'est plus 10 milliards, plus 33% d'exportation alimentaire de la France vers le Canada depuis 2017. Alors ça ne concerne pas toutes les filières, mais en tout cas pour la plupart, ça fonctionne, Pascal.
Oui, tout à fait. C'est un accord de libre-échange, voilà, dont l'objectif est effectivement de stimuler la croissance économique des deux zones géographiques. Comme vous l'avez dit, hein, plus il y a une forte hausse aujourd'hui, en tout cas, des échanges entre le Canada et l'Union européenne, plus 51%, ne serait-ce qu'en 2023. Voilà, 25% aussi, je dirais, de hausse de tout ce qui concerne les produits industriels, notamment sur la question des biens, des services. En particulier, et donc on a une stimulation des échanges. Maintenant, il y a un point quand même qu'il faut rappeler, c'est que ça reste que 1% des exportations françaises, premièrement, et puis que finalement il n'y a pas eu un raz-de-marée non plus phénoménal des produits agricoles canadiens dans l'Union européenne. Voilà.
Il faut venir du lithium, notamment des matières.
Absolument.
Les terres rares dont on a besoin, oui.
Absolument. Samuel Botton, comment est-ce que vous regardez cette séquence? On a frôlé l'hystérie quelques années avec le traité Mercosur, et puis là, sur le CETA, bah voilà, il s'est passé ce qui s'est passé.
Alors moi, je vais le prendre sous le prisme de la communication, et c'est un vrai coup de com'. On pourrait poser la question, est-ce que c'est un coup de maître? Dans la mesure où tout ce qui s'est passé aujourd'hui était éminemment prévisible dans le déroulé des choses. Et la séquence médiatique a commencé déjà depuis 2-3 jours avec le gouvernement et notamment Riester qui est largement monté au front pour dénoncer le vote qui allait se passer. Alors bon, on est sur des accords transpartisans dans l'hémicycle et finalement c'est la logique. Ce qui est intéressant, c'est dans quel contexte ça se place. On est dans un contexte de contestation agricole, si j'ose dire. On est à échéance, à court terme, des prochaines européennes. Et d'un point de vue d'image et d'opinion publique, ça peut résonner comme un camouflet immense pour le gouvernement. Oui. La réalité, elle est un peu différente. Je ne pense pas que ça pose de problème outre mesure et de fonctionnement et de gouvernance au gouvernement actuel. Il va y avoir un deuxième round, le 30 mai, puisqu'il y a une niche parlementaire qui est prévue et il est déjà acté que ça sera remis au goût du jour.
Et ça ne sera pas la même histoire. Hein, ce qu'on dit, la composition de l'Assemblée d'aujourd'hui n'est plus celle de 2019, donc on n'est même pas sûr que ça repasse.
Oui, c'est ça. Et exactement. Il se peut que l'Assemblée nationale retoque le texte comme le Sénat vient de le faire.
Et ça met parfaitement en exergue les déséquilibres parlementaires qu'il y a aujourd'hui actuellement en France. Mais ça résulte aussi de ce qu'est notre démocratie, c'est-à-dire il peut tout se passer. On a aujourd'hui des forces et des équilibres dans les différentes institutions. Chacune sont en mesure de rendre leur jugement donc à travers des votes. Celui-là était assez clair. Mais on va rentrer quand même jusqu'au 30 mai dans une séquence de guerre froide où de part et d'autre, il ne se passera rien. Le gouvernement n'a aucun intérêt à monter au front et à faire état de ce vote à l'Union européenne.
Tant que c'est pas notifié, voilà.
Oui, c'est ça. Alors ça, c'est l'option chypriote, parce que c'est ce qui se passe à Chypre. En effet, le gouvernement n'a pas notifié le rejet de son parlement depuis 2020. L'accord continue de s'appliquer finalement par défaut. Maintenant, évidemment, on prend le risque que l'opposition crie au déni de démocratie.
On a des vues complètement schizophréniques sur ces traités de libre-échange, clairement aujourd'hui.
C'est au coup par coup. Il y en a de plus en plus. Bon, ça corrobore cette idée que le commerce international, qui représente 25% quand même du PIB de la France, est quelque chose d'important, et c'est à peu près pareil pour les pays développés de façon générale. Donc voilà, on mise beaucoup sur le commerce international aujourd'hui, puisque la consommation ralentit dans pas mal de pays avec l'inflation, puisque les investissements, il y a aussi un ralentissement de certains investissements, sauf sur les investissements en nouvelles technologies. Donc il faut trouver des leviers de croissance qui sont sur le commerce international. L'enjeu fondamental, à mon avis, il est là. Et pour revenir sur cet accord-là, 90% du premier volet de cet accord joue le jeu aujourd'hui, qui est le développement du commerce entre le Canada et l'Union européenne. Les réglementations, un petit peu moins. Le vrai problème, c'est effectivement les litiges juridiques. Alors, je ne vais pas rentrer dans ce débat sur les litiges juridiques. Lorsque vous investissez dans un pays de l'Union européenne, est-ce que les réglementations permettent ces investissements? Est-ce qu'on a affaire au droit national ou est-ce qu'il faut une institution supranationale? C'est ça le sujet. Et puis, réciproquement, lorsqu'on investit au Canada, est-ce que on doit faire à la jurisprudence canadienne ou est-ce qu'il faut un droit international commercial qui permette, je dirais, de déployer ces investissements? C'est ça le vrai sujet qui bloque aujourd'hui.
Sabel, oui, tu disais.
Oui, il y a toute ressemblance avec un cas existant sera fortuite, mais aujourd'hui, c'est la question de l'écologie. C'est ce qui pourrait, par exemple, se passer à la teste avec une entreprise canadienne qui souhaite exploiter 8 forages pétroliers. Et ça pose un cas de conscience, alors, d'une part, d'un point de vue de la politique écologique que la France essaye de mener, mais surtout, parce qu'à horizon 2040, si je ne dis pas de bêtises, on est censé sortir des hydrocarbures.
Eh oui.
Avec une mise en place et un accord total sur le CETA, l'entreprise canadienne, elle se retourne vers qui ? Vers la France. Et donc là, pour le coup, on est dans...
En réalité, c'est 2035. Ouais.
2035, autant pour moi. Mmh. Je savais que j'avais un quart de 5 ans. Donc on se retrouve vraiment dans une crise qui peut potentiellement être une crise d'affaires et une crise diplomatique. Et pour le coup, là, on aurait été totalement bloqué. Donc il y a du très bon sur les échanges commerciaux, sur les excédents. Et il y a ce revers de la médaille sur le volet écologique qui a peut-être pas été assez pris en compte au moment de sa constitution et sur ces 7 dernières
années. Après, on n'est pas les seuls, hein, puisqu'il y a 10 États membres au sein de l'UE qui n'ont pas terminé ce fameux processus de ratification. Et l'Italie, par exemple, alors eux, s'y opposent fermement.
Mais le fait que la France ratifie éventuellement pourrait lancer derrière aussi d'autres pays sur la ratification, quoi.
Voilà donc pour ce vote du Sénat, qui était largement... Il est fort quand même, hein, ce vote contre. Ouais. 221 voix contre, 44 voix pour. Donc ça a été vraiment... Au prix de cette alliance inédite, effectivement, donc, ouais, comme vous le disiez, entre la droite républicaine et les communistes, finalement.
Une grosse minorité gouvernementale au Sénat également.
Et voilà, c'est clair. Guerre, tout ça, évidemment. Bien, parlons des comptes publics. Y a-t-il le feu, peut-être ? Thomas Cazenave, le ministre des comptes publics, disait ce matin sur l'année 2023, donc l'année découlée, on a des déficits publics qui seront finalement à un niveau supérieur à ce qui était prévu. Ils pèseront plus que les 4,9% du PIB prévu à l'origine. On sera au-dessus de 5, dit Thomas Cazenave, finalement.
Et on l'écoute tout de suite.
On l'écoute, allez.
C'est l'INSEE qui publie le chiffre du déficit public de 2023. Elle aura l'occasion de le faire la semaine prochaine.
Et ce qui est certain, plus important, oui, que prévu.
On l'a dit devant la représentation nationale avec Bruno Le Maire, devant l'Assemblée, au Sénat également. Pourquoi ? On a constaté, notamment en fin d'année, le ralentissement économique. Qui dit ralentissement économique, moins de croissance, dit moins de rentrées fiscales, moins d'impôts sur les sociétés, moins de TVA, moins de cotisations sociales. Donc on le sait, le déficit sera plus élevé que prévu en raison de ce nouveau contexte international.
Et alors, donc lui, il dit on sera un petit peu au-dessus des 5%, et vous avez ce soir Jean-François Husson, qui est le rapporteur général de la Commission des Finances au Sénat, qui est un républicain justement, qui dit, qui a déboulé apparemment à Bercy aujourd'hui sans crier gare, et qui dit on sera à 5,6% en fait cette année.
Ça fait mal.
Sur 2023, voilà.
Ça fait mal, avec deux énormes risques. Un, que la note de la France soit dégradée vis-à-vis des agences de notation, et que la majorité soit sanctionnée aux européennes à cause de sa mauvaise gestion des finances publiques. Ça fait beaucoup quand même.
Ça fait beaucoup, effectivement. La question des agences de notation est importante, parce que je pense que on craint aussi un abaissement de cette note, qui est la solvabilité aussi de l'État français, qui est les investissements, l'image vis-à-vis des marchés financiers aussi, qui joue beaucoup. Et donc finalement, à travers le ruissellement du crédit, l'économie, la croissance économique et les emplois. Donc il y a une crainte claire là-dessus. Bon, maintenant, faut un petit peu aussi raison garder, dans le sens où on reste quand même un État solvable, et qu'encore aujourd'hui, les taux d'intérêt certes sont supérieurs au taux de croissance, mais les taux d'intérêt réels, si on intègre l'inflation, permettent quand même une fongibilité automatique et comptable de la dette, qui reste encore aujourd'hui un point positif.
Mais ça, ça on verra ce qu'il reste dans deux mois quand les agences de notation ont perdu.
Voilà.
Et, Pascal, c'est ça le problème.
Ah, tout à fait. Alors, effectivement,
oui, et
c'est une
charge de la dette qui va devenir le premier poste de dépense.
Ouais, devant l'éducation.
Devant l'éducation.
Absolument. Donc là, les leviers sont très clairement compliqués aujourd'hui, mais il faut comprendre que dans ce déficit-là, il y a une part, c'est à peu près 50-50 d'après les études économiques, une part qui est conjoncturelle, donc comme le disait à l'instant dans l'interview, la part qu'il y a à la conjoncture, qui est effectivement difficilement maîtrisable, c'est à peu près 50% du déficit, ça impacte la croissance, ça impacte les prévisions de recettes et donc forcément le déficit, mais il y a une part structurelle aussi dont on parle assez peu.
Est-ce qu'il minimise pas la cause structurelle?
C'est minimisé.
Il n'est pas hypocrite, la part du structurel, elle est énorme.
Il y a une part du structurel qui est énorme, qui est liée à plein de choses, je dirais à une refonte, je dirais, d'un certain nombre de dépenses, de l'efficacité de la dépense publique, comme le font les pays anglo-saxons, notamment, et le Canada également d'ailleurs, qui pratique effectivement une efficacité de politique publique depuis des années, où on peut, je dirais, faire du timing sur la dépense, plus que du quantitatif. Tout cela doit être pensé, c'est du structurel, c'est le poids de la protection sociale. On ne veut pas mettre un terme au social, ce n'est pas le sujet, mais c'est de repenser...
C'est un peu la piste que dessine Bruno Le Maire pour justement sortir de
C'est cet aspect structurel, le marché du travail aussi, les rigidités sur le marché du travail, qui composent aussi avec ce déficit.
Et on est quand même le seul grand pays de la zone euro, avec l'Italie, à avoir un déficit supérieur à 5% en termes d'image. C'est quand même pas génial, Samuel?
Ça s'explique de différentes manières. D'abord, sur les politiques successives qui ont été menées, je pense qu'il faut aussi, alors ça c'est ce qu'a très bien dit Thomas Cazenave sur la question des crises internationales qui traversent le monde depuis quelques années. Donc là, il y a la guerre en Ukraine, il y a la question du conflit israélo-palestinien. Si on remonte encore un peu, se pose la question de tout ce que l'État français, et il faut le dire, et il faut le souligner, et c'est aussi une conséquence de ce que l'État français a pu faire pour soutenir l'activité, les entreprises et les citoyens pendant le Covid. Aujourd'hui, à la place du président de la République, je pense que le terme de maître des horloges n'a jamais aussi bien porté son nom, et il a tout intérêt à le rester. Soyons clairs, je doute que la question soit tranchée d'ici les européennes. Je pense que ça arrivera plutôt au cœur de l'été, pour profiter d'un bassin d'inactivité et de repos
pour tous les Français.
Sauf
ou alors
que les agences de notation parlent avant, là, Samuel. Hein, 26 avril, chez Moody's,
elles ont déjà montré à plusieurs reprises qu'elles étaient capables
non,
de temporiser.
Non, vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps. Là, vous devez annoncer. Enfin, vous devez donner des gages qui plus est de sérieux budgétaires dans les prochains jours, véritablement.
Sur les gages, je pense que Bruno Le Maire a toujours trouvé le moyen de donner bon gage de crédibilité aux agences de notation.
On verra cette fois.
Alors, ça sera peut-être pas aussi simple, mais en l'occurrence, en l'état, je vois mal la question se trancher rapidement. J'imagine mal, ou alors ça serait vraiment avec un effet dévastateur, le président de la République annoncer une hausse d'impôts à court terme, parce que pour le coup, je ne suis pas sûr que la population française soit en mesure d'accepter le choc. Et là, on rentrerait de nouveau dans une nouvelle crise de confiance, de défiance, et peut-être avec les Français dans la rue. Je ne suis pas sûr que ce soit son intérêt, encore une fois, à court et moyen terme.
Inquiète-moi des JO, oui.
J'y avais pas pensé, mais maintenant que vous le dites, oui. Et la question, c'est les pôles de dépenses sur lesquels on pourra faire des économies. Ce qui me fait peur, c'est que c'est sur des pôles prioritaires. On parle de l'éducation. L'éducation, ça a été un enjeu majeur, au moins depuis le début du quinquennat Macron, alors avec des succès, des échecs, beaucoup pour certains. Donc avoir une réduction budgétaire sur l'éducation, ça serait un mauvais signal envoyé.
Sur la transition écologique aussi, c'est ce qui est annoncé par Bruno Le Maire.
C'était mon point juste après la culture, mais effectivement sur la transition écologique, et on voit que ça se recoupe, c'est-à-dire aujourd'hui, on ne peut pas se présenter en état moteur de la transition écologique en Europe,
voilà.
Et derrière, aller à contre-courant de ça. Et pourtant, c'est un des premiers pôles de dépenses qui est concerné. Donc, à partir de là, ça va être un vrai, vrai jeu d'équilibriste.
Vous ne parlez pas non plus des frais de fonctionnement, Samuel.
Alors, les frais de fonctionnement de l'État, vous avez la question, d'une part, de l'immobilier, la question des services publics. D'ailleurs, je lisais, en préparant l'émission, une tribune de Jacques Attali sur les Échos d'il y a quelques jours sur comment l'intelligence artificielle pouvait être un recours... justement à la question des finances publiques et des fonctionnaires pour amener peut-être un peu plus de qualité dans le travail, un meilleur accompagnement des différents agents administratifs et surtout être un vrai soutien aux Français dans leur démarche.
C'est l'IA plus que Bruno Le Maire.
C'est le fonctionnaire 4.0.
C'est ce qu'il faut comprendre.
Oui,
fonctionnaire 4.0, exactement. L'expression est très très bonne. On est obligé de s'arrêter là, messieurs, 18h57. Vous revenez dans un quart d'heure avec les experts. On sera aussi avec Guillaume Duval et Bruno Grandjean pour compléter le tour de table. Les experts qui reviennent à 19h15. On revient, cela dit, dès 19h dans quelques minutes.
Exactement, on continue de décrypter l'actualité économique pour vous, à tout de suite.
Good evening business, actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.